franceinter.fr.
Karibu wa Maori. Karibu France Inter Maori.
Bonjour à tous. S'il y a bien un adjectif qui convient à l'île de Mayotte, c'est jeune. Jeune comme sa population, 17 ans et demi en moyenne, contre 41 ans en métropole. Mayotte est aussi un tout jeune département dans le sens où il est le dernier né des 101 départements français. C'était il y a près de 6 ans. Mais la jeunesse, c'est bien connu, et souvent impatiente, là où ce processus de départementalisation est une très lente mutation. Mayotte est un minuscule territoire, plus petit que le lac Léman, mais il est la deuxième densité du pays, après l'île de France, ce qui lui donne le sentiment d'être au bord de l'asphyxie. Car ce confetti perdu dans l'océan Indien étouffe sous la pression migratoire. Chaque année, 20 000 migrants venus des Comores voisines font la traversée en bateau. Ils considèrent Mayotte comme un Eldorado, car, étant français, 20 000 migrants, c'est près d'un dixième de la population de l'île. À 9 000 km de Paris, Mayotte s'apprête à voter, elle aussi, dans 4 semaines, pour le premier tour de la présidentielle. Mais le scrutin semble bien loin des préoccupations des Mahorais. Ce désintérêt ne s'explique pas par le seul éloignement géographique, mais aussi et surtout par un tenace sentiment d'abandon. Et pour cause, quel autre département français aurait supporté sans exploser la crise que vit actuellement Mayotte, à savoir une très grave pénurie d'eau depuis plusieurs mois. Mayotte, chantier français en cours, c'est un reportage de Béatrice Duguet et Laurent Macchietti.
Interception, le magazine de la rédaction.
Cette île de Mayotte, c'est un cadre idyllique dans l'océan Indien, avec un lagon rempli de poissons tropicaux dans des eaux bleues turquoises. Un petit bout de terre tropicale, mais qui boue intérieurement, littéralement. Elle est surchargée, crispée par un afflux de migrants venus des Comores essentiellement. C'est Calais puissance 10, ici. Un peu de la Grèce aussi, quand les portes se sont fermées. Et la colère de certains Mahorais déborde. Ils se sentent négligés par la France. C'est le cas de Fauzia Korji, qui est membre de l'association des femmes leaders.
Mayotte est à 1000 morceaux, madame. Je dirais que je suis chagrinée, je suis estomaquée, que la France aujourd'hui nous malmène, nous piétine. Si j'ai eu la chance d'aller à l'école jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir au moins m'exprimer en français, si à un certain moment mes enfants, comme elles, ils ont pu quand même aller jusqu'au bac et pouvoir travailler aujourd'hui, avoir de fonctions, je ne pense pas que ceux qui sont à l'école aujourd'hui auront cette chance-là. Où est-ce que vous avez vu une salle de classe en France qui a 40 élèves plus? Ce n'est pas des salles de classe, madame, c'est des porcheries. Les enfants arrivent des îles Comores, ils viennent sans certificat médical, sans vaccination, rien du tout. Et bien récemment, il y a eu, et on a détecté, un cas de tuberculose au collège de Djoumeyé. Et là, on crie au secours. L'immigration est trop forte, l'immigration a tous les droits. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ne sont pas punis.
Les personnes qui arrivent, ce sont des gens pauvres qui ont encore moins de choses, je pense, chez elles qu'ici. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Vous me dites pauvres. Madame, nous, on a choisi. Eux, j'ai choisi. Mais moi, je ne veux pas accepter que quelqu'un fuit sa pauvreté chez lui pour venir m'appauvrir. Mais madame, vous savez que tous les terrains, là où vous voyez les petites maisons, ce n'est pas des terrains de l'État. C'est de nos terrains qui sont là, ils sont rentrés illégalement. Mayotte, on a perdu toute notre terre avec ces gens-là.
Pour vous, c'est trop.
C'est pas c'est trop. C'est que j'en veux à la France. On nous vole, on n'a plus rien, on n'est plus rien. Tout l'argent de l'État qui vient ici, ça profite aux étrangers. Mais nous, ici, c'est pas la liberté, égalité, fraternité. Ici, c'est l'insécurité, maternité. Et fatalité.
Ah. Où sommes-nous? Eh bien, nous sommes dans le bas de Kaweni, le plus grand bidonville de France, dit-on, à Mamoudzou. Beaucoup d'Anjouanais ici, un tas d'enfants. Les Anjouanais, ce qu'on accuse à peu près de tous les maux, ici la violence, la délinquance, la sécheresse parce qu'ils consommeraient de l'eau. Conditions de vie, on devrait d'ailleurs dire de survie déplorables, hein, tout simplement, ici. Nous y retrouvons Julien Gauquelin, de l'association des gardiens du littoral.
Gége, ça va? Et ouah. Ouais, juste là.
On est quartier Kaweni.
Kaweni d'Isma, ouais, toujours Kaweni.
Bonjour, bonjour
madame. Madame.
Qui est très habité.
Ouais, avec tous les problèmes de foncier. Hein. Les gens, ils s'installent un peu partout, quoi, donc...
Le terrain ici, ce morceau de mangrove, il appartient à qui?
Essentiellement, c'est des espaces protégés. Mais après, c'est des quartiers qui s'étendent de plus en plus, et puis après, voilà, qui descendent comme ça. Mais si on ne te donne pas l'endroit où habiter, bah, tu te mets là où tu peux. Et c'est, voilà, c'est la vie à la débrouille. Hein. Là, on voit, il y en a qui font du commerce de fer. Quand on voit l'état de fer là. Après, voilà, ce qui inquiète, c'est de voir l'état de la mangrove. Quoi. Ça, c'est quand on voit les feuilles des palétuviers, c'est pas trop rassurant, quoi.
Un peu, effectivement, comme si elles allaient tomber, un peu ouais, sèches. Hein.
Un peu sèches. Et les gens, ils ont conscience de ça, quand même. Là, ici, nous ont demandé à nettoyer. Et les eaux sont très, très polluées à Mayotte. Hein. Regardez l'état de l'eau. Ça, c'est des eaux stagnantes, et ce sol-là, après, finit dans la mer. Comment on veut développer Mayotte dans ces conditions-là? Il y a de la main-d'œuvre pour nettoyer. Je ne sais pas quelle impression ça vous donne quand vous voyez ça. Mais c'est pas rassurant, quoi.
Laissez-moi parler là.
Quel est votre prénom et quel âge avez-vous?
Michael, j'ai 17 ans. J'habite juste à côté, à droite.
Une maison en tôle?
Ouais, maison en tôle. Il y a des fois, il y a des bus qui passent. Qui sont vides et ils ne prennent pas. Parce qu'ils disent que c'est Kaweni ici, il n'y a que des voyous. Il y a même des chauffeurs de bus qui choisissent de ne pas s'arrêter ici.
Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer ici?
Avant tout, la route d'ici, parce que quand il y a la pluie qui tombe, c'est une rivière, c'est pas une route. Et puis, on a voulu faire un stade de foot là, mais pour que toutes les galères diminuent, parce que quand on ne trouve rien à faire, on ne pense qu'à aller voler et tout ça.
Ça vous est déjà arrivé ou pas?
Ouais, des fois, mais pas aller voler dans les boutiques. Moi, juste aller voler des bananiers pour aller faire un petit volet pour faire passer le temps.
Pour manger?
Ouais, pour manger.
Est-ce qu'un jour vous vous dites j'habiterai ailleurs?
Je pense pas, parce que si la situation ne s'améliore pas, je pense pas qu'on va évoluer. Hein. Disons qu'on vit dans une rivière. C'est pas une ville, ça, pour moi.
Ça vous pèse?
Trop. On n'a pas d'eau potable, il n'y a que des puits ici. Et des fois, quand la pluie tombe, les puits sont remplis et c'est sale.
Moi, ça me touche que vous ayez peu d'espoir. Parce que quand on est jeune, on doit avoir de l'espoir.
Dans d'autres villes, mais pas ici. Hein. Parce que même les anciens, les grandes personnes, ils ne nous aident pas à espérer. Eux aussi, ils se lamentent. Et si on ne nous aide pas, il n'y a rien qui va fonctionner ici. Hein.
Bonjour.
Bien dit là, vous travaillez pour l'association Les Gardiens du Littoral que vous avez montée avec votre ami, je suppose, avec
Ah oui, avec Antonio.
Antonio. Ce qui fait surtout bizarre, c'est que c'est un coin de France, quoi.
Ouais. Mais on a abandonné. Pas par la France. Nous, là, ils sont à 10 000 km de nous ici. C'est pas eux qui doivent réagir le plus. C'est nous-mêmes qui sommes ici. Nos représentants ici. Dans 5 ans, qu'est-ce que ça va être Mayotte? Si Mayotte, demain, ça est détruit, il n'y aura pas de répercussions que sur Mayotte. C'est un lieu de reproduction ici pour la mangrove, c'est un lieu de reproduction pour les poissons. Il faut innover aujourd'hui. Tous ces déchets, on peut les valoriser quand même. Si on avait des terrains qui sont mis à disposition, des grands terrains, on pourrait très bien y construire des bangas, juste avec des matériaux innovants, créer de l'activité, que ce soit autour de l'artisanat, l'agriculture, tout ça. On verra, en tout cas, nous, on est confiants pour l'avenir, quoi.
Oui, ça va bien.
Donc beaucoup d'enfants et tout, et tout.
Votre prénom, votre âge?
Alaoui, 23 ans.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'en vivant dans ce quartier, du coup, on vous rend responsable d'un certain nombre de choses?
Oui, on se sent déjà visé dans plusieurs cas déjà. Les déchets, vous avez déjà constaté les déchets qu'il y a là-bas, dans la mangrove là-bas. Si l'État pouvait mettre en place des canalisations, parce que les déchets qui sont là-bas, quand ils vont venir ici, ils vont dire que c'est les gens d'ici. Alors que c'est faux. Les gens d'ici, eux, ils font de leur mieux pour nettoyer un peu. Mais c'est les déchets qu'il y a tout en haut là-bas, avec les fortes pluies, il y a la rivière qui les amène jusqu'en bas. Et récemment, il y a un problème d'eau. Récemment, il y a déjà des gens qui disent que c'est à cause des enjoinés qu'il y a la sécheresse. Comment des gens peuvent faire ça? Ici, tout le monde boit l'eau du puits. Il n'y a pas d'eau potable ici. Et ils disent que c'est des enjoinés qui consomment l'eau.
Ce n'est pas une question qu'ils disent que les enjoinés. Je t'explique une chose très simple, parce que c'est la réalité et on ne peut pas la cacher. À Mayotte, il y a une partie de la population qui ne s'est pas reconnue, comme s'ils sont des fantômes. Par contre, justement, cette partie de la population utilise l'hôpital, utilise toutes les structures publiques. Ce n'est pas prévu pour tout ce nombre de personnes et on a les problèmes qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est l'État même qui te dit, bon, je te fais une RSPC, je te laisse attendre un an à mourir là-bas et après on verra, tu vois. Et donc, dans ce temps que tu vives à Mayotte, tu es un fantôme. Tout le monde il va souffrir toujours ce problème de surpopulation, on peut le dire. La première chose, c'est faire un recensement, le vrai nombre. Parce qu'on dit qu'à Mayotte, il y a 150 000. Imagine qu'on est 350 000. On est plus que le double. Donc tous les services, l'eau, l'électricité, tout ça, c'est calculé sur les 150 000, pas sur les 300 000.
Oui, chef du service régional de l'INSEE Mayotte.
Le dernier recensement de la population, c'est 2012, je crois. On est à un peu plus de 212 000 personnes. On est vraisemblablement officiellement autour de 250 000 aujourd'hui.
Non, l'officiel, c'est le recensement. Donc, 212 600 habitants, c'est le dernier chiffre que l'on a mesuré en 2012. Depuis, on a essayé de prolonger les tendances pour faire des estimations peu publiées qui n'ont pas de grande valeur statistique tant qu'elles n'ont pas été conformées par le recensement 2017. On attend avec impatience notre travail de 2017 pour pouvoir réactualiser ce chiffre.
Ce qui circule sur l'île, c'est on est officiellement 212 000, mais probablement on est entre 350 000 et 400 000. C'est du fantasme?
Oui, alors on a un vrai problème de crédibilité sur nos résultats, il faut bien le dire. Et nous, on réaffirme cette crédibilité. Le recensement concerne tout le monde, y compris les personnes en situation irrégulière. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on est confronté à ce fantasme, nous on considère que c'est ça, de chiffres. On parle parfois de 600 000 habitants, donc on a du mal à affirmer cette croyance populaire. Mais nous, on reste clair sur les chiffres. Les chiffres sont officiels d'une part, mais plus qu'officiels, c'est des chiffres statistiquement démontrés avec des méthodes éprouvées. Si on n'allait pas dans ce que vous appelez les bidonvilles, on n'irait pas dans... Il y a beaucoup d'endroits qu'on louperait. Alors ce qu'on perd parfois de vue, c'est que Mayotte, c'est que 374 km². Donc c'est petit ici. Quand les gens ne connaissent pas nos méthodes, ils se disent « vous pouvez pas aller dans certains quartiers ». Mais en fait, oui, évidemment, on y va toute l'année pour nos enquêtes auprès des ménages et pour le recensement singulièrement. Donc on a un travail de fourmi parce qu'on n'a pas d'adresse. Évidemment, l'adressage n'est pas au niveau de la métropole et les fichiers administratifs non plus. Donc on a un vrai travail de fourmi pour permettre d'avoir une méthode incontestable.
Parce que du coup, vous avez une forte pression. Les gens, ils disent forcément, l'île, elle est dimensionnée pour 212 000. On a des dotations globales de fonctionnement pour 212 000. Et si on est plus, pour le coup, rien ne fonctionne. Ou en tout cas, ça nous entrave. On ne peut pas tout faire.
Évidemment que l'enjeu de la population est important. Le recensement est un élément de cadre juridique fondamental pour les communes et pour d'autres collectivités. Aujourd'hui, on a quelques mois du prochain recensement. L'idée pour nous, c'est de travailler main dans la main avec les acteurs locaux et en particulier les maires pour mesurer la population ensemble, pour que ce résultat soit incontestable.
Évidemment que Mayotte est un territoire hors norme dans la France. C'est un département, mais qui ne ressemble à aucun autre et pour lequel il faut travailler, j'imagine, finement, spécifiquement.
Alors le sens de notre message, c'est de dire qu'à partir des indicateurs que l'on produit, on essaie d'éclairer le débat public pour montrer qu'on ne peut pas appliquer en l'état les méthodes nationales au local. On a une population qui est âgée de 17 ans et demi en âge médian. 4% de la population a plus de 60 ans. La question aujourd'hui du traitement des seniors n'est pas aussi prégnante qu'en métropole. On voit que le territoire est 4 fois plus pauvre que la métropole, que les ménages ne sont équipés que dans 20 cas sur 4 d'une automobile. Ça veut dire que ces ménages qui sont pauvres, ils ne peuvent pas aller au médecin régulièrement, par exemple. Ils ne peuvent pas se déplacer en automobile. Donc du coup, ils peuvent appeler, par exemple, à des services d'urgence d'une manière différenciée à ce qu'on constate en métropole. Mais évidemment, ils n'appelleront pas, par exemple, pour un chat qui est coincé dans un arbre, comme ça pourrait se passer dans des territoires métropolitains, cette chose paraissant anecdotique par rapport aux problèmes qui sont rencontrés sur le territoire. Et donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir un éclairage de ce territoire qui n'est pas comme les autres, qui reste la France, pour permettre aux politiques publiques de trouver des solutions adaptées et des moyens adaptés à la situation du territoire.
Rendez-vous à présent avec le docteur Maillard. Alors pas parce qu'on est malade, mais parce que le manque d'eau ici dans les villages du sud de Mayotte, bah, ça commence à créer quelques soucis sanitaires. Donc on va aller se renseigner auprès de ce médecin sur ses conséquences sanitaires.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
La grande métropole s'intéresse à Mayotte, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir.
Je suis docteur Xavier Maillard, donc je suis installé à Chirongui, Mayotte, depuis 3 ans. J'exerce le métier donc, d'omnipraticien en cabinet libéral. Je suis venu à Mayotte par choix, parce que bon, j'ai remplacé avant de m'installer. Je voulais voir un autre climat, voir une autre population. Et moi, je vais être franc avec vous, dans mon cabinet, comme on dit un peu trivialement, je m'éclate. Hein, je veux dire, les gens sont adorables. Il y a une grosse activité. Il y en a une pauvreté en médecins sur l'île. Bon, ça, c'est chronique en France, mais sur l'île, c'est très marqué, hein, puisqu'on a... Moi, par exemple, on tourne avec un associé, là, mais je suis le seul sur l'île pour environ 50 000 habitants, quoi, je veux dire. Donc, et donc, voir ça en France, c'est inconcevable, quoi. Moi, personnellement, vu de ma position, aussi bien avec mon regard de métropolitain que mon regard de médecin, je pense que les priorités ne sont pas placées au bon endroit. Après, je ne veux pas faire de l'antipolitique, mais je pense quand même que les politiques ne sont pas responsables ici, et il y a plein d'autres problèmes qui viennent s'annexer à cela. Je veux dire, historiquement parlant, quand Mayotte a voulu être français, Mayotte a négocié d'abord l'éducation, en deuxième la santé, en troisième donc il y avait quoi, l'accès à l'eau. Mais ce que je veux dire, comment voulez-vous donner envie à des jeunes d'étudier quand ils rentrent chez eux, qui vivent dans 4 de tôle, qui n'ont pas accès à l'eau courante, qui marchent dans des détritus, quand vous voyez que les collectes de déchets ménagers ne sont pas faites correctement, que ça s'accumule, donc en plus, bon ça va, il pleut pas trop, donc imaginez si ça macère par 35 degrés, les risques épidémiques auxquels on s'expose. Il y a tout un problème socio-économique, politique, géopolitique, parce qu'on n'a pas tenu compte de l'immigration. Ces gens-là, ils vivent, ils consomment un minimum. C'est des gens qui vont quand même essayer de vivre, donc se nourrir. Ils vont déforester pour planter des bananiers. L'évapotranspiration qui crée aussi donc les phénomènes de pluviométrie, eh ben, ça disparaît. Donc vous voyez, tout un ensemble de phénomènes qui s'enchaînent et qui font qu'on se retrouve sur une bombe à retardement. Mayotte, c'est une bombe à retardement. Hein.
Donc, Josiane Henry, vous êtes la directrice de l'Institut des études en santé de Mayotte. Manifestement, il y a des importants besoins en professionnels de santé sur cette île au regard de son évolution, on va dire, de ces dernières années.
Nous avons des quotas qui ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins de l'île, puisque aujourd'hui, aux dernières évaluations, on a besoin d'environ 120 infirmiers par an. Mais pour les infirmiers, on n'en forme que 30, et c'est vrai qu'il y en a besoin de 120. Alors pourquoi 120 ? C'est important de savoir ça. Il y a une communauté à Mayotte de à peu près 600 infirmiers. Mais ces 600 infirmiers, les deux tiers sont couverts par des infirmiers sac à dos, on va dire. C'est-à-dire des infirmiers qui viennent à Mayotte de métropole et qui ne restent pas. Ils viennent pour 2 ans, 1 an en fonction, ou 3 ans, 4 ans. Ça dépend aussi de l'ambiance de l'île. Ces derniers temps, on a eu quand même pas mal de mouvements. Le mouvement pour la vie chère, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a de l'insécurité aussi qui s'installe. Donc forcément, les gens restent moins longtemps. Et donc du coup, les équipes se déplument, hein, et il faut recruter à nouveau en métropole. Et moi, je vois dans mon équipe, les deux dernières années, j'ai eu un turnover énorme. Hein, 50% de mon équipe qui est partie, 60% l'année dernière parce qu'il y avait eu de l'insécurité. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu des agressions. J'ai eu des formateurs agressés, mais j'ai eu aussi des étudiants agressés. Et bien, depuis la rentrée, franchement, personne ne nous dit qu'ils veulent partir. Il y a la confiance qui se réinstalle. Les gens sortent à nouveau parce qu'il y a une meilleure maîtrise de l'insécurité. Et on le sent vraiment très fortement.
L'hôpital, c'est un des hôpitaux les plus actifs de France. Hein. On parle beaucoup de la maternité, parce qu'il y a plus de 9 000 naissances, je crois, c'est ça, presque 10 000. Voilà, c'est un hôpital qui surnage.
Je crois que c'est un hôpital qui fait ce qu'il peut. Vous voyez, je viens de discuter avec une stagiaire, une étudiante puéricultrice, hein, qui vient de terminer son stage en néonatologie. Et qui me disait, voilà, la néonatologie, c'est normalement 30 places, on a 55 bébés. Quoi. C'est vrai qu'on est débordé parce qu'on soigne beaucoup plus d'enfants qu'on ne devrait en avoir pour avoir une très bonne qualité de soins. Mais malgré tout, je pense qu'on fait le maximum.
Josiane Henry, cette île, j'allais dire que vous y vivez depuis toujours, pas tout à fait, mais presque. Comment vous imaginez les 5 ou 10 ans qui viennent?
Je pense que si il y a une réelle volonté politique pour la maîtrise de l'immigration, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle soit... Faut qu'elle soit interdite, c'est pas ça que je veux dire. Mais il faut qu'il y ait une meilleure maîtrise dans un tout petit territoire comme Mayotte, où on a plus de 350 habitants au kilomètre carré maintenant. Notre île, il faut qu'elle soit vivable. Quand vous avez une chambre à coucher de deux personnes, vous pouvez à la limite mettre deux personnes par terre en plus pour les aider, quoi. Mais vous ne pouvez pas en mettre 10.
À Mayotte, il manque non seulement des professionnels de santé, mais aussi des enseignants, 1600 à la rentrée 2016. Alors pas les postes, mais bel et bien les individus à mettre devant les élèves. Les contractuels comblent ce manque aujourd'hui. Il y a tellement d'enfants en primaire que dans bien des écoles, les élèves du matin laissent la place à d'autres l'après-midi. Mayotte, c'est un peu l'île record en France, bien que la loi égalité réelle outre-mer active une série de mesures pour aider le département. Taux de chômage de 27%, malgré une croissance de plus de 7% par an ces dernières années. La moitié des emplois de l'île sont publics, mais les fonctionnaires ne restent guère plus de 2 ou 3 ans. Un logement sur 3 est en tôle, un tiers des habitants n'ont pas accès à l'eau, 40% de la population est étrangère, soit 86 000 personnes. Un petit tiers n'a pas de papier. Mayotte, reconduite à la frontière, en l'occurrence vers les Comores voisines, entre 15 et 25 000 personnes chaque année depuis 10 ans, c'est autant, voire plus, que dans toute la métropole. Parce qu'une large partie de ces expulsés reviennent en jouant, n'est qu'à 70 km, et beaucoup ont de la famille sur l'île, parfois française. Les associations comme la CIMADE préconisent donc un système de visa plus souple pour que les allées et venues entre ces îles cousines soient plus faciles et pour désengorger cette toute petite île de France. Scène classique devant la préfecture de Mayotte à Mamoudzou. Il y a là 200-250 personnes qui sont en train de faire la queue. La préfecture a ouvert à 7h, il est à peu près 7h30. Il y a de l'attente. Ces personnes sont venues faire des démarches, elles sont là tous les jours. Mohamed Ben Daoud, vous êtes bénévole à la CIMADE. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher toutes ces personnes? Et d'abord, depuis combien de temps elles sont là? Elles attendent depuis longtemps?
À partir d'une heure du matin, 2h du matin, vous pouvez déjà commencer à trouver beaucoup de monde ici. Et voilà, qui attendent pour pouvoir entrer. Encore, ils n'ont pas de papier, donc ils sont venus parce qu'ils ont des convocations. Où la plupart, la majorité de ceux qui sont là, ils ont ce qu'on appelle une attestation de dépôt. Ils ont passé au guichet, mais après, il y avait quelques éléments qui manquaient dans leur dossier. Et ils vont déposer les éléments qui manquaient. Après, on leur dit que dans 2 mois, on va les appeler. On ne les appelle pas, donc ils se sont obligés de revenir là tous les jours, à espérer qu'ils peuvent entrer.
En moyenne, il faut combien de temps pour avoir un titre de séjour ? Plus d'un an, justement.
Alors, en moyenne, oui. Bon, je dirais même plus d'un an et demi pour obtenir la carte de séjour si tout se passe très bien. Et on peut ne rien obtenir. La plupart de nos parents ou de nos frères et sœurs qui viennent ici, ils sont là depuis très longtemps, mais malheureusement, ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont là depuis trop longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont là, mais ils n'arrivent pas à garder en eux des justificatifs qui permettront d'apprécier le traitement de dossier. Il y a aussi l'adresse. Hein? C'est-à-dire les gens n'ont pas forcément d'adresse. Et comme un traitement de dossier ne peut pas être traité sans adresse plus exacte, donc la plupart de ces gens-là sont quasiment coincés dans leur démarche.
Il n'y a pas d'adresse dans les bidonvilles, pour être cru.
Il n'y a pas d'adresse. En fait.
On peut essayer d'aller voir, questionner quelques personnes.
Je m'appelle Hadidja, on m'a dit Abdallah Hadidja. C'est la deuxième fois que je viens ici. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde, je ne sais pas si je peux entrer ou pas.
Quel âge avez-vous? Vous paraissez très jeune.
J'ai 19 ans. Et je suis venue ici chercher des papiers pour bien poursuivre mes études d'ailleurs. Et je suis venue ici à Mayotte depuis tout petit. Ça fait déjà très longtemps, j'ai commencé toute ma scolarité ici. Je suis en terminale. Oui, le bac est bientôt là et j'ai pas encore de papier.
Vous avez de quoi justifier votre identité?
Non, j'ai pas de passeport, j'ai pas de carte d'identité.
Vous ne pouviez pas entreprendre les démarches avant, évidemment, vous n'étiez pas majeur, c'est ça?
La première fois que j'ai déposé mon dossier, j'avais pas de problème, j'ai pu le déposer tranquille. Après, on m'avait donné un rescpissé et qui est déjà empiré depuis le 15 février. Il est permis depuis le 15 février. Et je suis venue ici le 1er mars, j'ai pas pu entrer.
Aujourd'hui, c'est difficile, vous êtes dans la queue qui rentre là. Et est-ce qu'avec un récépissé périmé, vous êtes expulsable?
Oui.
Alors la plupart du temps, ces gens-là même disent la loi que si on est arrivé sur le territoire français avant 13 ans, donc on n'est pas expulsable. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas ici. Dès qu'ils se font attraper par la PAF, s'ils n'arrivent pas à justifier, et la plupart des autres arrivent à s'expliquer au moins qu'ils sont là depuis leur enfance, malheureusement, on les expulse quand même. Donc on les expulse, ils perdent l'école, et du coup, ça peut provoquer autre chose à l'avenir, parce que ça, c'est l'avenir qu'on essaie de détruire, quoi.
Madame Fouraati Amissi, chef de service investigation sociale à l'association Tama.
Tama, vous vous occupez, entre autres, parmi vos nombreuses missions des mineurs isolés, il y en a 3000.
Il y a 3000 qui ont été diagnostiqués par David Guyot en 2012, mais réellement, il y en aurait le double. Et nous, au niveau de nos services, on en accompagne plus de 1000.
À quoi c'est dû? Les gens, ils viennent des Comores avec leurs enfants et parfois ils sont contraints de les laisser?
Alors il y a plusieurs sources en fait. Il y en a qui arrivent avec leurs parents à Mayotte et les parents, quand ils se font expulser parce qu'ils n'ont pas réussi à se faire régulariser, ils décident de laisser les enfants ici pour avoir une meilleure santé et une meilleure scolarité. Il y a des enfants qui sont envoyés seuls dans les Kwassa pour des soins parce qu'ils ont des problèmes de santé ou quoi. Mais il y a aussi des enfants mineurs isolés qui sont nés à Mayotte mais de parents étrangers. Et quand le parent décide de repartir ou qu'il se fait expulser, il y a toujours le choix de la famille de laisser l'enfant ici parce que pour eux, il est né ici et il aurait la chance de devenir français à ses 13 ans.
Quand vous dites qu'il y a des mineurs qui prennent le bateau, c'est des gamins qui ont quel âge ?
On en a eu des tout petits, hein, 6 ans, 8 ans. Quelquefois, ils sont rattachés à quelqu'un qu'ils connaissent. Quelquefois, ils sont rattachés à personne. Les parents les mettent dans le bateau parce qu'il y a le grand-oncle ou la tante qui est ici. Parfois, quand le Kwassa se fait interpeller, nous, au niveau du CRA, on essaye toujours de...
Au centre de rétention,
d'investiguer pour savoir si ce mineur-là, il a réellement un point de chute à Mayotte. Quelquefois, on a des gens qui se présentent au niveau du CRA. Mais il faut qu'ils justifient de leur lien de parenté, lien de filiation avec le mineur en question. Et quand il n'y a aucun justificatif ou qu'on arrive à retrouver personne, le mineur ne peut pas être éloigné tout seul au niveau du centre de rétention. Du coup, on est obligé de le faire sortir et de le confier à l'aide sociale à l'enfance.
Frati, c'est une situation impensable en métropole.
Oui, ça peut être impensable en métropole, mais nous, c'est notre quotidien. Des fois, ils arrivent à l'âge de 16 ans. On a beau leur expliquer qu'à 16 ans, c'est compliqué, jamais été scolarisé. Ils arrivent à 16 ans, ils veulent aller à l'école pour la première fois. Il n'y a pas de place, c'est saturé au niveau des écoles. Du coup, on travaille avec des associations aussi qui font de l'alphabétisation, comme le Secours catholique ou l'association Les Apprentis d'Auteuil, Msaïdié. Et avec eux, on arrive à les inscrire dans un rythme, pas vraiment un rythme scolaire, mais c'est un rythme où ils se lèvent le matin, ils vont apprendre à lire, écrire et tout ça.
Antoine Duhaut, vous êtes le responsable des Apprentis d'Auteuil ici. Vous nous emmenez où ?
Je vous amène à la rencontre de jeunes sur un dispositif de remobilisation.
On est dans le centre de Mamoudzou, là.
Exactement. Pour bénéficier de cette formation-là, qui est une formation de 4 mois, dans laquelle ils doivent définir un projet, dans lequel ils doivent découvrir de nouveaux métiers, et il faut qu'ils soient en situation régulière.
C'est des jeunes, c'est des ados ?
16-25 ans.
Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce cas-là, à Mayotte ?
Oui, il y a énormément de jeunes dans ce cas-là, ou qui nécessitent... effectivement, donc de les aider à définir un projet, de remettre à niveau aussi, parce qu'il y a une grosse difficulté de maîtrise de la langue écrite, orale. Et l'objectif, c'est vraiment qu'ils apprennent des compétences de base, mesurer, lire, écrire, à travers la pratique, faire des mélanges phytosanitaires, eh bien, il faut savoir mesurer, faire une recette, il faut savoir lire, il faut savoir écrire. Donc du coup, les formateurs sont plutôt pour leur faire apprendre des savoirs de base et non pas forcément en faire des futurs cuisiniers ou des futurs agriculteurs. Donc là, on est à Nari Sommet. Donc c'est un dispositif qui est financé par l'Europe. Et Nari Sommet, ça veut dire apprenons ensemble. Voilà, simplement.
En fait, ils ne s'intéressent pas beaucoup à leurs enfants. La deuxième chose que je dirais, moi, j'attaquerai directement les entreprises, les maires et les présidents. Et ceux qui sont intelligents, ceux qui peuvent travailler, aller à l'école facilement, en fait, ils ne les acceptent pas. Ils disent que toi, tu es dangereux, toi, tu n'as pas de papier, toi. Et ils laissent ces enfants-là désescolariser. Alors, l'enfant, il doit vivre aussi. Alors, il est obligé d'aller faire n'importe quoi. On ne s'intéresse pas beaucoup à ces enfants-là, les maires. Ils viennent là, ils font leur discours, moi je ferai ça, je vais vous donner ça, je vais leur donner du travail. Et quand on les vote, ils font n'importe quoi. Comme s'il n'a rien dit, comme s'il n'avait pas fait des promesses.
Moi je ne peux pas dire que le maire ne fait pas. Il fait quand même. Moi qui est une étrangère, on ne peut pas dire que Mayotte aide. Pas Mayotte aide, car il y a beaucoup d'écoles. Que chez nous, là-bas, il n'y en a pas. Si c'était ça, on restera chez nous. Bah, je ne peux pas juger Mayotte, car Mayotte fait leur mieux. C'est Mayotte qui m'aide, pas les Anjanais qui m'aident.
Vous êtes fatigués !
On est pas fatigués !
Vous êtes fatigués !
On est pas fatigués !
Et bien, vous êtes fatigués !
On est pas fatigués !
Donc Nathalie Costantini, je suis vice-recteur à Mayotte.
J'allais dire une palissade ou une évidence, il y a beaucoup à faire en termes de scolarité, d'école ici.
Oui, il y a beaucoup à faire et il y a tous les ans à refaire. Parce qu'en fait, on n'a pour l'instant pas une stabilisation de nos effectifs. Il y a énormément d'enfants, on a 94 000 enfants. En fait, en 30 ans, on a multiplié par 10 le taux de scolarisation.
Comment vous faites pour suivre au niveau des locaux, des profs ?
Alors, on ne suit pas. On ne suit pas, ce serait très prétentieux et c'est bien tout le problème. C'est qu'à l'heure actuelle, dans le second degré, nous construisons un collège par an, un lycée tous les 2 ans. Et pour autant, nous arrivons, le dernier collège que nous avions ouvert avant celui-là se retrouve à 1700 élèves.
Sachant qu'une classe naît par jour, ici ?
Exactement. Exactement. Et que ça, Pour l'instant, on n'en a pas encore les effets. On aura les effets dans 3 ans. Deuxième élément, c'est des familles qui vivent dans des situations précaires, qui sont arrivées illégalement sur le territoire. Pour autant, l'école de la République prend en compte tous ces enfants de 6 à 16 ans. Et donc, nous avons des enfants dont nous savons qu'ils sont sur le territoire, mais qu'ils sont pour l'heure pas scolarisés. Nous avons du coup mis en place un dispositif avec l'aide des associations pour que les associations leur donnent confiance, parce que c'est compliqué de faire venir son enfant à l'école quand on est en situation irrégulière, et qu'ils acceptent que leurs enfants se rapprochent des écoles pour pouvoir avoir le minimum des compétences et connaissances dont ils auront besoin pour ne pas être des proies, parce que malheureusement, ces enfants sur le territoire sont des proies.
Nathalie Constantini, on est aussi sur une île musulmane, ici, à plus de 90%. Il y a des enfants, pas mal d'ailleurs, qui vont à l'école coranique. Est-ce que les deux écoles peuvent cohabiter et se compléter, après tout ?
Pour l'instant, ce n'est ni un sujet ni un problème. Dans le cadre des activités périscolaires, moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à conduire pour que les enfants puissent aussi aller à l'école coranique. Pour les familles, ce sont des repères qui sont essentiels à la structuration de l'éducation des enfants. Il faut l'entendre, et il y a des choses que fait l'école coranique dont l'école de la République peut se servir. Par exemple, on fait répéter les enfants, on les fait beaucoup mémoriser à l'école coranique. L'école de la République s'en sert parce que les capacités de mémorisation dont on a énormément besoin sur l'ensemble des connaissances que nous devons faire acquérir aux enfants pour qu'ils puissent construire leurs compétences, ça c'est quelque chose sur lequel on aura un appui fort pour pouvoir faire progresser les enfants. Je pense qu'il y a une possible complémentarité entre ces deux écoles. C'est le même mot, on n'y fait pas la même chose. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut peut-être être très clair. Voilà. Qu'est-ce que l'école coranique ? Qu'est-ce qu'on y fait ? À quelles règles elle doit absolument satisfaire pour que, du coup, on soit bien sur quelque chose de positif et pas sur de l'embrigadement ou du prosélytisme ?
Pour conclure, Nathalie Constantini, vous appréciez votre métier à sa juste valeur, je suppose, ici, tant le défi de l'école de la République est immense.
Moi, je remercierais vraiment Mayotte de ce qu'elle m'a permis de faire sur le plan professionnel. C'est émouvant de le dire parce que vous savez ici, vous avez ici beaucoup de jeunes qui comptent sur nous. On est un certain nombre ici à vouloir vraiment donner leur chance à ces jeunes. Quand on parle de la violence, quelque part, on en crée de la violence. On crée aussi des rancœurs, de l'incompréhension. Moi, je suis très fière que l'école de la République accepte tous ses enfants. Il faudrait aussi que ce ne soit pas un leurre.
La pluie, un petit orage, un tout petit orage sur Mayotte en ce moment, Mamoudzou pour être précis, parce qu'il n'est pas dit que ça tombe sur les autres parties de l'île, mais cette pluie-là, cette eau-là, bénéfique. Les Mahorais l'attendent depuis des mois et elle a tendance fortement à tomber avec parcimonie, c'est-à-dire quasiment pas, depuis le mois d'avril dernier. Il y a un élément très important dans la culture mahoraise. C'est la justice cadiale qui était organisée de manière très large autour des cadis jusqu'à la départementalisation. La départementalisation a changé des choses. Et donc nous allons rencontrer maintenant Mohamed Nasser El Mamouni qui a été le porte-voix de cette justice cadiale pendant longtemps et qui a un regard sur l'islam parce que la société mahoraise est une société musulmane à 95%, on peut dire. Donc voilà, vous allez nous expliquer quelques petites choses. Bonjour.
Bonjour. Mayotte, nous avons une grande difficulté. La première difficulté, c'est la non-institutionnalisation et homogénéisation de l'enseignement religieux, quoi, en fait. Deuxièmement, quand j'ai dit homogénéisation, il manque de référents pédagogiques.
Comme en métropole,
finalement. Comment en métropole ? Il n'y a pas. Troisièmement, nous n'avons pas un système de maîtrise n'est-ce pas, donc des ressources humaines intervenant donc dans la religion, que ce soit dans la guidance de la prière, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans les hadiths. On n'a pas des règles établies, mais on peut avoir donc des personnes qui viennent d'Anjouan ou de Moroni ou de l'Afrique, qui viennent et qui savent très bien lire le Coran et qui s'instituent immédiatement comme étant un enseignant ou bien un imam, on l'accepte. Pourquoi ? Parce que le niveau, la connaissance scientifique de la religion est faible. La science sur l'islam est une arme extrêmement forte pour faire reculer la volonté de vouloir aller tuer l'autre par le tourisme, n'est-ce pas, donc à la Syrie. C'est par méconnaissance.
Ça vous inquiète ?
Ça ne m'inquiète pas outre mesure, parce qu'en fait, l'esprit de tolérance, l'esprit analytique de Maoré qui sait identifier le mauvais et le bien, parce que les gens qui ont tenté de déséquilibrer, ils ont été rapidement mis en échec. Hein. J'en ai mis pas mal en échec. Mais jusqu'à quand ? S'il n'y a pas une organisation, on risque effectivement donc non seulement d'être fragilisé par ce manque, mais de trouver devant nous des personnes qui sont d'un grand niveau intellectuel et qui sont malheureusement de mauvaises personnes. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis allé à Moroni, rencontrer les religieux, notamment le Moufti, le grand Kadi là-bas. Je suis allé rencontrer le ministre de l'Intérieur, qui aussi sont extrêmement inquiets par rapport à la radicalisation de l'esprit qui se développe. C'est pour cela qu'en fait, il faut rendre étanches nos frontières qui sont devenues, c'est pas en termes sécuritaires, mais en termes d'élection des personnes qui ont droit à transmettre la science de la religion. La religion comme nous la faisons. Pas comme ce qui s'est fait ailleurs, mais comme nous la faisons. Avec cet esprit de tolérance, avec cet esprit donc d'échange et de l'esprit de vivre ensemble.
Le reportage radio en odorama, ça n'existe pas encore à la radio et c'est un peu dommage parce que la balade du matin nous emmène dans un endroit absolument formidable et très parfumé, une plantation d'ylang-ylang au centre de l'île de Mayotte, dans la boiteur de Ouangani, production traditionnelle relancée, activité économique surtout, sur une île qui en cherche. Hassani Souleymana, vous êtes le propriétaire de la plantation d'ylang-ylang ici. Vous avez pris la succession de votre papa ?
Oui, mon père est encore vivant, donc c'est encore lui qui est déjà propriétaire, mais c'est moi qui fais tout, qui gère tout ici, ouais. Je fais les études d'économie et de gestion, plutôt commerce, pour justement en fait valoriser, faire connaître le site.
Valoriser, oui, effectivement, ça veut dire organiser des balades, montrer ce que vous faites, etc.
Exactement, l'agrotourisme. L'agrotourisme.
En quoi est-ce que l'État français peut vous aider en ce moment à conserver, par exemple, ces plantations d'ylang-ylang qui sont peut-être un petit peu menacées, en tout cas sur la rentabilité de ces productions ?
Vous savez, en fait, là, j'aimerais bien pouvoir faire des investissements en termes de modernisation. Là, on est ici sur ce terrain, ça fait maintenant plus de 6 générations qu'on est là. On n'a pas encore de titre de propriété sur ce terrain-là. Et en fait, c'est un terrain dominial. Et en fait, pour pouvoir prétendre aux subventions européennes pour ma parcelle, il me faut en fait un titre de propriété. Et le problème, c'est que quand je vais voir le domaine demande d'acheter le terrain qui nous appartient déjà. Donc déjà, si déjà l'État commence par accepter de reconnaître mon bien, c'est déjà pas mal, hein, la reconnaissance. Et c'est vrai que c'est un réel frein, là, parce que quand on estime le chiffre à laquelle je dois racheter mes terres, ça s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est un handicapant, en fait. Et puis c'est mes terres, quoi, c'est les terres de mes ancêtres. Après, ça, c'est au niveau personnel. Au niveau de la structuration de la filière, globalement, il serait bien que l'Europe intervienne pour réduire le coût de la production de la main-d'œuvre. Nous, ici, à Mayotte, nous sommes dans un pays français, nous devons respecter la loi française, donc le SMIG français. Et le pays qui nous concurrence, c'est les Comores et Madagascar, qui ont des SMIG qui sont genre 20 fois moins que nous ici. On n'est pas de taille du tout à nous battre contre eux. Du coup, on a très clairement besoin d'être mis sous perfusion.
On sent bien que les activités de tourisme, d'agrotourisme, sont une chance, une source de développement pour cette île-là. C'est votre avis aussi ?
Moi, je crois que l'avenir de Mayotte, est aujourd'hui beaucoup dans le tourisme. Quand je dis tourisme, je parle aussi de Lining, parce que c'est l'image de Mayotte, l'île au parfum. C'est pour ça qu'il faut sauvegarder. Hein. Je pense que le fait, il faut le garder, pas pour son côté rentabilité, parce que la rentabilité, il est zéro. Il n'y a pas concurrentiel. La rentabilité économique directe, il n'y en aura pas pour l'île. Mais il y a d'autres rentabilités qui est plus en termes d'image de Mayotte, c'est-à-dire l'image que ça véhicule, c'est quand même le domaine du parfum, c'est Lining, c'est Guerlain, ça fait rêver. Et il y a la rentabilité plutôt au niveau écologique. Parce que là où il y a les Ilingues, en fait, il n'y a pas des bananes, il n'y a pas de manioc. Donc ce sont la banane et les manioc, ce sont des cultures qui causent hein, beaucoup de dégâts en fait, au niveau de l'environnement. Le fait d'avoir maintenir la filière Ilingue, ça permet aussi de préserver l'environnement de Mayotte. Le tourisme fait partie des pistes intéressantes à développer ici. Et, c'est une île qui est magnifique, les gens quand ils viennent, ils sont contents. Donc, il suffit de peu pour développer ça, en fait. Hein. Un peu de volonté de part de nos politiques, peut-être. Donc moi, je crois que le tourisme, c'est l'avenir de Mayotte. Hein.
Mayotte, chantier français en cours, c'était un reportage de Béatrice Duguay avec Laurent Maquetti à la prise de son. Réalisation Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe, mixage Olivier Dupré. Cette émission est disponible sur franceinter.fr grâce à Zora Ben Smaili. À dimanche prochain.
Merci Vanessa Descoureaux, c'était Interception. Si vous souhaitez compléter votre information sur le sujet du jour, rendez-vous sur le site internet de France Inter. Vous y trouverez différents liens vous orientant par exemple sur le site de la mission locale de Mayotte avec un dossier sur la citoyenneté, sur le site du journal de Mayotte avec un article « Citoyenneté, les opérations se multiplient pour responsabiliser les jeunes » datant du 19 octobre 2015 et un dossier de presse « Mayotte, patrimoine et citoyenneté » diffusé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2016.